Hello à tous, vous écoutez Bien-être étudiant On Air, le podcast de bien-être qui parle des différentes problématiques de la vie étudiante. Nous sommes les étudiants relais santé de l'Université de Bordeaux et nous venons chaque mois vous parler de la santé mentale étudiante accompagnée d'un professionnel de santé. Chaque podcast est réalisé dans une atmosphère de bienveillance et de respect afin de vous accompagner au mieux dans un format décontracté mais toujours informatif. Allez, c'est parti!
Lors de ces podcasts, nous allons traiter des sujets pouvant être sensibles. Si vous pensez que cela peut vous heurter ou vous faire mal, préservez-vous et rejoignez-nous plutôt sur un prochain podcast. Si vous ne vous sentez pas bien ou que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé.
Salut Tatiana.
Coucou Lisa, comment vas-tu ?
Bah écoute, super contente d'être ici à nouveau pour cette deuxième saison de Bien-être étudiant On Air. On a plein de nouveaux thèmes pour survivre au quotidien étudiant, avec une nouvelle équipe et surtout plein de nouveaux invités.
Et la nouveauté de cette nouvelle saison, c'est que maintenant vous pouvez nous rejoindre pour échanger avec nous pendant les podcasts. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on est quatre autour de cette table. Et moi-même, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Je m'appelle Tatiana, actuellement je suis en Master 2 Économie Internationale à l'Université de Bordeaux. Et je me retrouve encore une fois avec Lisa qui m'accompagne au pôle bien-être à l'espace santé étudiant.
Et de quoi on va parler aujourd'hui, Tatiana ?
Il me semble qu'on va parler des révisions. Comment ça se passe les révisions pour toi ?
Bah écoute, je suis vraiment à fond dedans, donc c'est le sujet d'actualité pour tous les étudiants. Et crois-moi, même au bout de 5 ans d'études, on se retrouve toujours dans la même galère.
Je me souviens que les premières années de fac sont les plus dures. C'est surtout la méthodologie du travail universitaire, parce qu'il y a aussi de nouvelles responsabilités à côté, des cours, des travails. Je trouve que c'est vraiment pas simple.
Oui, c'est sûr. Et face à cette nouvelle situation, l'organisation et la bienveillance envers nous-mêmes sont les clés de la réussite. On n'a pas le temps pour tout faire tout seul, donc on doit vraiment faire des concessions. Pour préserver une bonne santé physique et mentale, des fois, le repos, le sport, les amis ou encore la famille vont passer avant les révisions.
Mais il y a un truc qu'il ne faut vraiment pas oublier, et c'est qu'on peut avoir recours à l'aide. C'est-à-dire qu'à l'Université de Bordeaux, il y a les services FAS qui est là pour aider aux étudiants en situation exceptionnelle. Situation d'handicap, maladie temporaire, sportif de haut niveau. Il y a aussi l'espace santé étudiant qui est là pour aider, une assistance sociale, un suivi psychologique qui est possible. Et en plus, c'est devenu très difficile suite à la mise en place des cours en distanciel, les systèmes hybrides et la crise sanitaire.
Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de l'organisation du temps en période d'examen, de comment gérer son stress sous la pression. Et pour cela, on accueille Patricia Martin, psychologue de l'espace santé étudiant de Bordeaux, qui nous aidera à répondre à quelques questions que vous nous avez envoyées via Instagram. Bonjour Patricia, merci de nous rejoindre pour cet épisode.
Bonjour et ravie d'être à nouveau là. Nous recevons pas mal d'étudiants qui sont concernés par ce sujet d'aujourd'hui, qui vivent des moments compliqués pendant les examens, du stress beaucoup bien sûr, puisque ça fait partie de notre époque aussi. On peut les aider, les coacher, entre guillemets, pour faire baisser ce stress ou au moins le gérer le mieux possible.
Aujourd'hui, nous sommes aux côtés des deux étudiants qui sont venus partager aussi leur expérience.
Bonjour, moi je m'appelle Ève Le Barbier, je suis en première année de AES, donc c'est du droit et de l'économie. Je sors juste de mes examens, je les ai terminés hier matin et ça fait du bien.
Et moi, je m'appelle Léa Georges et je suis en Master 2 de stratégie et politique de communication et je suis en plein dans mes examens.
Du coup, comment ça se passe ? Comment vous vous organisez un petit peu ?
Moi, c'était la première fois que je passais des examens à la fac et j'ai pas trop su comment m'organiser. Et honnêtement, je me suis prise vachement à la dernière minute. Donc, c'est-à-dire que tous les soirs, avant mes examens du matin, je bossais jusqu'à genre minuit pour terminer des fiches, les relire. Et un truc qui m'a vachement aidée là-dedans, c'est qu'on a un Discord en commun sur toute ma promo de AES. Et en fait, il y a plein de gens qui se posent plein de questions et qui tous les soirs disent « Ah, mais comment ça fonctionne ça ?» Et en fait, juste de leur expliquer, de les aider, ça m'a vachement aidé à réviser et à intégrer toutes les notions de mon cours.
Alors moi, du coup, j'ai un peu plus d'expérience que toi, vu que je suis en master et que j'ai 23 ans, donc ma licence était il y a longtemps aussi. Moi, c'est différent, alors tu me diras si c'est ça aussi, mais j'ai pas de partiel, en fait. C'est des examens ou des projets, la plupart du temps distanciels, ou des projets à rendre en groupe. Donc ça amoindrit le stress. On est en groupe, on peut parler de nos problèmes, on a le temps de le faire. Je sais que moi, je suis une personne qui a besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi qui travaille pour travailler. Donc très vite, quand j'ai su qu'on allait avoir des examens, j'envoyais des messages tout simplement pour savoir si quelqu'un voulait bosser. Pour que même si il ou elle bossait quelque chose d'autre, ça me permettait de me dire « Allez, je suis dans l'ambiance, dans l'humeur de « il faut que je bosse ». Et ça a été ma première technique. Et aussi, je suis une personne très anxieuse et j'utilise les micro-tâches. C'est-à-dire que du coup, je m'y prends assez tôt. Mais j'essaye d'évaluer ce qu'il me faut pour cet examen. Si c'est un écrit, si c'est un oral, je le prends différemment.
Ça, c'est super parce qu'on voit vraiment que vous avez deux styles très différents. Et c'est vrai que ça, on y est confronté au quotidien, de voir des gens de notre classe qui sont hyper en avance, qui ont déjà affiché tous leurs cours. Et puis nous, on arrive deux jours avant l'examen un petit peu en stress. C'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas se comparer les uns les autres, parce que toi, tu travailles mieux dans l'urgence, Eve. Et peut-être que toi, tu as vraiment besoin d'avoir des semaines à l'avance, tout préparé, tout organisé. Donc, en fait, tant qu'on arrive à bien diviser son temps de travail et organiser en fait, ses priorités, c'est comme ça qu'on va y arriver. Et surtout, ne pas surestimer ce qu'on peut faire par rapport au manque de temps, parce que c'est ça en fait, qui peut arriver à la panique. Et du coup, on reste bloqué avec une surcharge de travail qui nous bouffe un peu, quoi.
Après, moi, je me souviens que à ton âge, j'étais comme toi. Bon, après, moi, après 23 heures, je ne peux pas réviser. Genre, techniquement, mon cerveau, il faut que je dorme. J'étais toujours en retard. Et c'est vrai que la comparaison, c'est hyper compliqué de la gérer. Moi, j'essaye de la gérer à chaque examen. Et surtout, quand on arrive, si c'est en présentiel, quand on arrive dans la classe, et qu'il y a tout le monde qui commence à dire « moi j'ai révisé ça, t'as fait comme ça », qui commence à parler et tout. J'essaye le plus possible de me mettre dans ma bulle et de me dire « je me compare pas, ils ont révisé comme ça, moi je révise autrement parce que je révise à l'oral en fait, j'arrive pas à écrire ». Et surtout, j'ai 10 minutes, 20 minutes avant qu'on me donne la feuille, un oubli total de mes cours.
Ah oui.
Ah oui, c'est normal.
C'est que je joue et maintenant que je fais de plus en plus d'examens, je me dis « c'est normal parce que ça m'arrive tout le temps. »
Oui, il y a un phénomène effectivement normal, pas agréable, mais normal, puisque quand le stress monte, l'émotion va activer des neurotransmetteurs dans le corps et va faire qu'effectivement, la capacité d'aller chercher dans la mémoire et de réfléchir avec vraiment le lobe frontal qui nous permet de réaliser la tâche, est un peu coupé. Mmh. Donc il y a vraiment ce phénomène-là qui se passe, c'est comme si le cerveau disait « Oups, on arrête tout parce que là, il y a un danger, alors il va falloir faire quelque chose. » Le phénomène est normal, heureusement, on peut arriver à redescendre. Ce que je trouve intéressant là, dans ce que vous dites toutes les deux, c'est l'importance, petit à petit, de se découvrir. Mmh. C'est-à-dire, plus je vais faire des expériences, et même des fois, écouter les autres, comment ils font, mais avant les examens, pas la veille, pour m'enrichir et puis me dire tiens, cette technique, qu'est-ce qui me convient, moi j'aime bien travailler en groupe, ça m'aide, échanger, je me rends compte que si je fais ça je me sens je me sens plus à l'aise, et petit à petit on va automatiser ces trucs en fait, mais qui sont les nôtres. Donc en fait c'est la connaissance de soi,
ouais,
qui amène petit à petit à pouvoir avoir ces systèmes, hein. Il n'y a pas de système miraculeux non plus,
ouais. Non c'est sûr, et moi je sais que je change des fois aussi les micro-tâches, je le fais depuis juste cette année parce que j'ai découvert quelqu'un qui m'a dit « moi aussi, je suis hyper anxieuse et tout ». Elle m'a expliqué son fonctionnement, j'ai fait « mais enfin, je le fais pour d'autres tâches, pourquoi je ne le ferais pas pour mes examens ?»
Là, on parlait des modes de fonctionnement et honnêtement, la manière dont j'ai travaillé ça, je ne l'imaginais pas du tout de cette façon-là, et c'est vraiment parce que le temps m'a rattrapé que je bossais jusqu'à minuit. Moi non plus, je bosse jamais jusqu'à minuit, et en fait, avant d'arriver en période d'examen, littéralement, je ne bossais jamais chez moi. J'allais tout le temps à la BU, c'est-à-dire que si mon emploi du temps terminait à 16h, j'allais à la BU pendant 3h, jusqu'à 19h. Comme ça, je rentrais après les bouchons, c'était parfait. Et là, je bossais à la BU parce que chez moi, c'était impossible. En fait, je me suis découvert que bosser chez soi, c'est possible, mais que c'est très difficile d'un autre côté parce qu'il y a énormément de distractions. Donc quand je bossais chez moi, c'était pas dans ma chambre. J'ai la chance d'avoir quand même une maison assez grande et il y a un bureau. D'habitude, c'est le bureau de mon beau-père, mais... là, lui, il bosse pas jusqu'à minuit 23h, donc c'est moi qui l'utilisais en soirée. Et ça m'a vraiment permis de me concentrer, d'être dans ma bulle et de pouvoir travailler, quoi. Parce que sinon, hors de la BU, j'y arrivais pas du tout. Et je pense que le temps, ça joue énormément. Donc, comme tu dis, les micro-tâches prévues à l'avance, c'est une super idée. Je la retiens d'ailleurs parce que deuxième semestre, je ne veux pas retravailler de la même façon. Ce n'était pas si stressant que ça parce que je ne suis pas quelqu'un qui stresse énormément. Je suis du genre à vraiment relativiser beaucoup. Mais quand je me retrouve devant ma copie et que je me dis « Waouh, en fait, j'ai bossé hier de 16h à 23h et puis c'est tout.
» En fait, dans l'urgence, tu y arrives, mais si tu le fais tout le temps, un moment, enfin, moi je sais que je vais péter un câble très vite. Ouais. Si je me dis qu'à chaque examen je dois faire ça, je peux plus quoi.
Ah, mais celle-là, je suis rentrée chez moi hier après-midi, j'ai vraiment fait rien
mais
de
oui,
mon après-midi.
Banée,
C'était waouh.
Maintenant que vous parlez de micro-tâches, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que c'est les micro-tâches. Peut-être que les étudiants qui nous écoutent ne le savent pas. Et aussi curieuse de savoir, Eve, comment tu as fait pour t'organiser? Est-ce que tu as. T'as fait un calendrier? Est-ce que t'as eu recours à l'aide de tes autres? Ou pour moi, c'est très intéressant de voir la différence entre vous deux. Vous êtes à la fac, mais dans des années très différentes. Et je pense que ça peut aider aux étudiants aussi à comprendre comment s'organiser eux-mêmes et comment survivre à cette période.
Non, je n'ai pas fait de calendrier du tout. Au contraire, c'était vraiment très à l'arrache et je m'en suis bien sortie, mais je pense que c'était vraiment un coup de chance pour cette fois-ci. Mais moi, je suis quelqu'un qui fonctionne énormément avec les fiches. Donc tous mes cours, en fait, que je tape à l'ordi normalement en amphi, là, je les ai recopiés proprement à la main, en ne mettant vraiment rien de ce que je recopiais. Et ensuite, je fais des petites fiches, donc ça fait beaucoup d'écriture à la main, et c'est pour ça qu'en fait, j'ai énormément perdu de temps. J'ai pensé que j'écrivais plus vite que ça. Et en fait, quand je me retrouve à la fin de la journée et que je me dis « Waouh, j'ai écrit 2 chapitres sur 4 », alors j'avais prévu de terminer tout mon cours de l'année en, je sais pas, seulement 6 heures de travail, je me dis « Waouh, c'est pas possible ». Et c'est pour ça que j'ai travaillé jusqu'à 23 heures. Et non, j'ai pas fait de calendrier. Parce que en fait, tout mon temps libre, je l'ai dédié à travailler, donc pas besoin de calendrier pour organiser les différentes tâches.
Juste avant de revenir sur les micro-tâches, parce qu'effectivement, de détailler un peu pour la plupart des gens, ça c'est vraiment intéressant. Étant une grande anxieuse moi-même, on a beau être psy et anxieuse, c'est pas un problème. C'est vraiment des choses que je fais, c'est-à-dire en fait de faire des petites choses qu'on ne voit pas passer et qui permet, à bout du compte, de se dire « Ah, mais j'en suis déjà là, finalement, j'ai pratiquement tout fait. » Il y a une autre chose qui est intéressante aussi, plutôt que de rédiger des fiches, c'est aussi d'aller regarder tout ce qu'on appelle les mind mapping. Parce que ça permet de visualiser, alors c'est pas que pour les gens qui sont visuels, mais ça permet de visualiser et surtout de garder en mémoire les points saillants d'un cours sans avoir à forcément tout recopier à la main. Donc c'est aussi des techniques qui peuvent être à explorer.
Oui, je vois très bien de quelle technique tu parles parce que justement en MTU, du coup la méthodologie du travail universitaire, on en a une heure par semaine. Et on a étudié, est-ce qu'on peut vraiment dire ça, étudier ? On a vu ce que c'était les mind maps, justement, et c'est vraiment pas mon mode de fonctionnement, j'ai déjà essayé, ça marche pas, et au contraire, moi, je marche vraiment en ligne, c'est-à-dire que j'apprends mon plan de cours, et une fois que je connais mon plan de cours par cœur, bah, je peux tout resituer, tout ce qu'il me faut.
Bah, c'est super, voilà. L'idée, c'est que ça marche.
Oui, c'est ça. Et du coup, alors les micro-tâches, moi, ça... après, ça dépend du projet, mais... Par exemple, déjà pour un cours, c'est de se dire, moi par exemple, je l'écris à l'ordinateur quand je suis à l'université, faire des fiches, enfin le relire déjà, ça c'est une micro-tâche. Après, le réécrire, mais je le réécris vraiment, j'écris que les mots pour me souvenir des plus importants, etc. Et j'essaie le moins possible, du coup, après la tâche de relecture, même surlignée, etc., de l'écrire vraiment à la tête. En fait, j'écris des paragraphes comme ça. Et puis, j'essaye de le dire à l'oral, après. Parce que moi, du coup, je suis une personne qui parle à l'oral. J'écris, mais j'écris très mal, du coup. Déjà, pour me relire, c'est galère. Mais j'arrive mieux à écouter les gens. Et aussi, justement, ça peut aider d'être avec quelqu'un et de lui demander, bah, écoute, j'ai ça à faire, est-ce que tu peux m'aider? Moi, j'ai des colocs, c'est super. Et du coup, on s'échange les cours, en fait. Elle me le dit à l'oral, moi, je lui dis à l'oral, je lui pose des questions, elle me pose des questions. Et on essaye de faire des petites séances thé ou, si vous êtes fumeur, des petites séances clope, où chacun dit, bah, écoute, j'ai fait ça au cours, ça m'a permis de faire ça, ça, ça. Et même si tu connais pas le cours, au moins, t'es une personne extérieure et tu... Moi, ça m'aide, en tout cas, à me dire, bah, écoute, si elle a compris au moins un truc, ça veut dire que j'ai compris mon cours.
Ouais, c'est super important du coup de savoir s'organiser à sa manière, mais aussi, là on parle beaucoup de révision de travail, mais à côté il faut quand même survivre cette période Et pour ça, c'est hyper important de s'accorder des pauses. Et même si c'est quand même assez difficile parce qu'on a vraiment l'impression dans l'urgence d'avoir besoin de chaque minute, de chaque seconde pour réviser, on est quand même plus efficace si on organise bien notre temps de vie, enfin notre journée, avoir le temps, comme tu dis, bien se reposer parce que le lendemain, on sera beaucoup plus efficace. Se faire un bon repas, une bonne pause pour pouvoir mieux repartir après. Est-ce que vous aviez cette habitude de vous laisser du temps ou est-ce que vraiment vous avez rushé jusqu'au bout pour donner toute votre personne?
Je pense que ma méthode de travail est un peu bizarre, c'est-à-dire que dès que je me mets à travailler, pendant 2 heures, je suis hyper opérationnelle à fond et rien ne me déconcentre et c'est bon. Passer ces 2 heures-là, ça commence à devenir difficile. C'est pour ça que mes matinées, je les rentabilisais énormément, mais les après-midi, c'était une catastrophe, quoi. Donc après ces 2 heures, ça y est, c'est ma première pause. Donc je prends mon téléphone, les réseaux sociaux, des jeux, des trucs comme ça. Après, on va dire que je vais manger à la cantine, je retrouve des amis de temps en temps, parce que ouais, je suis revenue souvent à la fac, à la BU pendant mes révisions. Et l'après-midi, c'était freestyle, quoi. C'est-à-dire que les pauses, c'était toutes les 20 minutes, et toutes les 20 minutes, c'est 10 minutes de pause. Donc je sors mon téléphone, je fais une petite partie Clash Royale, une deuxième partie Clash Royale.
Ouais. je peux intervenir, parce que c'est vraiment super intéressant. Alors d'abord, c'est vrai que le système global, c'est un peu comme une voiture. C'est-à-dire si on ne met pas du carburant dedans, à un moment donné, ça s'épuise, hein, ça s'arrête. Même si la voiture est neuve, même si elle est belle, même si je sais pas quoi, s'il n'y a pas d'essence, ça va plus marcher. Et notre corps, c'est pareil. Et notre cerveau, qui est ce qui consomme le plus d'énergie dans notre corps, il a besoin de ses pauses. Et les pauses, c'est là que je voulais intervenir dans ce que tu disais. C'est important de se faire du bien, de se faire plaisir, de dormir, ce que tu disais très bien, de manger correctement. Ça paraît des trucs de mémé, mais c'est de la base, quoi. C'est juste la base. Et après, il y a ce que tu disais, c'est-à-dire les pauses, je suis sur les réseaux, je suis sur Insta, je suis sur machin. Et là, c'est peut-être à réfléchir, parce que cette pause-là, c'est des fois pas une pause qui est satisfaisante ni reposante pour le cerveau. C'est un peu un évitement, c'est un peu je suis dans un truc qui fait que bon, c'est rigolo, mais en fait, je fais rien, au fond. Donc non seulement je travaille pas, je vois pas des gens, je ne dors pas. Et finalement, c'est aussi quelque chose qui va me grignoter du temps. Et j'insiste là-dessus parce que là, aujourd'hui, on peut avoir vraiment tendance qu'on se repose si on est sur le téléphone. Or, en fait, ça vient vraiment faire de la charge cognitive et donc de la fatigue.
Mais c'est ça, en fait, c'est de la fatigue morale et mentale qui s'ajoute à celle qu'on s'inflige avec les révisions. Et très souvent, on a tendance à travailler tard parce qu'on estime qu'on n'est pas fatigué. En tout cas, notre corps n'est pas fatigué. Mais en fait, la fatigue, elle est vraiment dans la tête. Et pour ça, on a souvent du mal à dormir, plus le stress qui vient jouer. Et pour ça, on s'est rendu compte qu'en fait, fatiguer un peu son corps, donc aller faire un tour, aller marcher, faire du sport, faire quelque chose un petit peu physique, quoi, un minimum, permet aussi d'ajouter de la fatigue physique pour un peu égaliser celle qui est complètement dans notre cerveau.
Je ne dirais pas les choses comme ça. C'est qu'au fond, notre système d'Homo sapiens, on est des marcheurs. On a un corps, on n'a pas qu'un pur esprit, et notre corps a besoin, et pour alimenter le cerveau, d'avoir une activité physique. Je ne parle pas de sport, hein. Juste d'avoir une activité physique. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on est câblé comme ça, quoi, depuis que les humains, enfin même peut-être même les singes avant, étaient câblés comme ça. Donc il faut aussi respecter ça. C'est aussi important finalement que de manger ou de dormir. Et nous, on vit dans un monde, là maintenant, on est tous très sédentaires. On a les fesses sur la chaise toute la journée et on pense et on vit là dans le lobe frontal, quoi, dans le haut du cerveau. Mais non, il y a tout le reste. Et plus on va bouger, plus on va créer aussi de la chimie dans le corps qui va faire qu'on va se sentir mieux. C'est pas pour être plus fatigué. Ok, c'est assez important.
Oui, mais c'est une sensation où parfois ça peut jouer à ne pas pouvoir s'endormir le soir.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que bouger, ça n'est pas être plus fatigué.
Oui, bouger, ça peut être marcher.
C'est plutôt pour simplement activer le corps, le sang, le cœur et surtout faire qu'on se sente un peu moins stressé.
Mm. Hein? Oui. Voilà. Oui, si on va au-delà de juste la marche, le sport, c'est aussi un bel évacuateur de stress.
Bien sûr.
Ça, c'est sûr. Après, c'est chacun à son niveau, chacun selon ses besoins. Donc voilà, dans tous les cas, juste se lever de sa chaise, c'est vraiment la base et ne pas rester derrière son bureau ou dans son lit toute la journée pour travailler. Je ne sais pas comment vous faites. Mais voilà, ce qui semblait aussi intéressant à traiter pour les révisions, et vous l'avez déjà un peu abordé, c'est les sources de distraction. Donc pour ça, Eve, tu as déjà parlé d'avoir du mal à travailler chez toi par rapport à la BU. Est-ce que du coup, comme tu l'as dit, tu t'es vraiment aménagé un espace divisé de ton espace de repos, donc j'imagine ta chambre, ou comment tu as réussi en fait, à faire de ton chez-toi un espace de travail?
Oui, c'est ça. J'ai la chance d'avoir un bureau dans ma maison. Donc j'allais là quand mes parents n'y travaillaient pas, et forcément c'était le soir parce qu'ils y sont en journée. Donc la journée c'était à la BU, ou sinon en journée là vous parlez de distraction, enfin pas de distraction mais plutôt d'évacuation par le sport et tout, et donc ça évidemment je sortais avec mes amis, j'allais faire quand même du sport à côté, j'essayais. Et en fait c'est au moment de rentrer à la maison quoi, là je squatte le bureau à fond et puis avec un petit radiateur à côté ça remonte le moral quoi.
Et moi du coup effectivement j'évite de travailler dans ma chambre. Je pense que mon animal totem c'est le paresseux, parce que dès qu'il y a un lit à côté j'ai envie de dormir, enfin je trouve que c'est pas génial. Alors j'ai un bureau dans ma chambre mais c'est hyper compliqué. Donc moi j'ai la chance d'avoir une grande coloc qui me permet d'avoir un grand salon et une grande table où je peux, si vraiment je me dis il faut que je bosse à fond, je me mets dans le salon. Ou des fois, je peux travailler dans ma chambre, mais j'ai cette sensation que je suis un peu oppressée, que genre, je suis pas bien et tout. Et du coup, il faut que je change d'air, il faut que je change d'endroit pour voir si ça s'améliore. Moi, j'ai pas du tout été éduquée, entre guillemets, dans mes habitudes à la BU. Je sais pas pourquoi. Parce que je pense qu'effectivement, vu que je parle pendant que je révise, c'est hyper compliqué en BU.
Problème.
Voilà, ça peut poser problème. Les gens n'ont pas trop envie de savoir les théories de com'. Alors qu'ils sont en train de lire un livre. J'ai la chance d'avoir un grand salon. Et je pense qu'il y a un côté aussi très rassurant. Je me dis, je suis chez moi. Ça peut être aussi un peu dur parce que du coup, t'as envie de faire un gâteau ou t'as envie d'aller sur Insta, de regarder la télé, enfin des choses comme ça. Mais moi, il y a aussi un côté plus réconfortant. Je suis avec ma petite couette, je suis bien, j'écris, je peux faire des pauses quand je veux, je peux m'habiller comme je veux aussi. Enfin, il y a moins de pression sociale, on va dire, chez moi. Juste pour revenir à ce que vous disiez avant pour tout ce qui était marché, etc. Je me suis rendu compte que des fois aussi, ça me permettait de réfléchir mieux et de trouver des idées plus vite. Si à un moment, je me disais, je lisais et en fait, tu te rends compte que tes yeux ils sont en train de se plisser et tout, t'as mal à la tête et tout. Je me suis dit, tu vas marcher et tout de suite, genre, tu descends les escaliers et ça va mieux et tu fais... En fait, c'est bon, j'ai trouvé ça va pas. Ou même dormir. La plupart du temps, tu te réveilles le matin et t'as trouvé ton idée pour ton examen ou pour ton projet, quoi.
Quand on a pensé au podcast, on a aussi parlé de nos méthodes d'études, comment on fait pour... travailler mieux. Et il y a un truc qui est ressorti, et c'est le fait que plusieurs d'entre nous, on utilise la méthode des 20 minutes. C'est une méthode que moi, personnellement, j'aime bien parce que ça peut être 20 minutes de travail, 5 minutes de pause ou 30 minutes en fonction de notre fonctionnement. Il faut aussi savoir s'écouter, s'adapter au rythme de son corps. Moi, je travaille 30 minutes, puis après, je fais une pause de 5 minutes. Et c'est une pause où souvent, je me mets à faire du sport ou à marcher un petit peu. Juste 5 minutes, c'est vrai que moi, ça me permet de penser beaucoup mieux. Il y a aussi cette pause de 5 minutes où on peut bien manger ou aussi boire. On nous parle beaucoup de dormir, de manger, mais pas de boire.
C'est vrai.
Et je trouve que l'hydratation, c'est aussi très importante lors des révisions.
Tatiana a évoqué une technique d'organisation de temps. En préparant le podcast, on a aussi trouvé une deuxième manière d'éviter aussi les sources de distraction, parce que comme tu l'as dit, Eve, on utilise énormément nos téléphones, les réseaux sociaux. Il suffit d'une minute et en fait, on y reste une heure. Et en fait, on s'est rendu compte que quasiment tout le monde dans notre équipe mettait des applications qui bloquent notre téléphone, soit juste en mettant le mode ne pas déranger pour ne pas avoir de notifications et ne pas être amené à regarder son téléphone, soit en limitant en fait le temps d'utilisation d'une application en particulier. Donc ça peut être un réseau social où on a l'habitude d'être assez longtemps, ou des jeux, si en fait tu fais trop de parties de Clash Royale. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas si vous appliquez ce type d'astuce ou quoi, mais moi, je sais que ça me sauve la vie.
Moi, j'en ai une, et j'ai bloqué à 30 minutes par jour Instagram. Mm-hmm. Et déjà, juste l'avoir fait, je me rends compte que je ne fais jamais 30 minutes d'Instagram. Parce que je pense que, je sais pas, le côté un peu challenge, je me dis, je vais faire moins. je l'utilise moins. Après, pour mes révisions, la plupart du temps, en fait, je mets mon portable dans un endroit où je ne serai pas. Donc, soit je l'oublie dans la chambre, soit je l'oublie dans le salon, ou même dans la salle de bain. Mais au moins, j'ai aucun message, aucune... Ça peut être un peu égoïste, parce que s'il y a quelqu'un qui me demande de l'aide, bah, je ne serai pas, malheureusement. Mais sinon, la technique aussi de ne pas avoir son portable à côté de lui. Alors, la technique des 20 minutes, après, tu as les pauses, donc c'est plus compliqué. Mais moi, vu que je travaille en 2 heures, je me dis, bah, pendant 2 heures, il n'y a que moi et mon ordinateur.
Et c'est sûr qu'après, il ne faut pas culpabiliser de ne pas répondre à des messages pendant 2 heures si après, tu te laisses des petites pauses de 5-10 minutes où
non, et puis,
bah, voilà, tu peux retrouver tes messages, traîner un petit peu sur les réseaux et... C'est fait, genre c'est cadré pendant 10 minutes, j'ai catch-up. Et...
Oui, c'est ça, moi, je l'ai fait ce matin, par exemple. Ce matin, j'avais du temps libre, je me suis dit, je vais répondre à toutes les personnes qui m'ont... Enfin, je devais envoyer des messages, et quelquefois, je me fais des sessions de je réponds à tout le monde. Mm-hmm. Et puis après, j'ai fait mon job, et puis après, c'est à moi de faire ce que j'ai envie de faire. Si c'est les révisions, je révise, mais personne ne me...
On est dans un monde d'immédiateté qui nous pousse tous à être dans l'immédiateté. Moi qui ai connu quand même des époques où il n'y avait pas de portable. Et quand on a pu avoir les portables, parce qu'on en rêvait tous, hein, évidemment. Mais c'était en fait l'idée, c'était qu'il y a des messageries. Et c'était pour être plus libre. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, on se rend compte qu'on est vissé à quelque chose qui devait nous rendre plus libre. Et qu'effectivement, la plupart des messages ne sont pas urgents.
Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je vais répondre maintenant? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que la personne aussi en a besoin de manière urgente? Et sinon, tu fais ton taf toute seule, quoi. Ou sinon, tu le fais en groupe, t'invites des gens. Ça, c'est pas la même chose, je trouve,
ouais,
que d'écrire sur Facebook ou d'être tout le temps sur sa messagerie.
Ouais, mais il y a une double face au travail en groupe, quand même. Parce que selon avec qui t'es, ça peut être dur de bosser. Hein.
Mais moi, du coup, c'est pour ça que hier, je l'ai pas fait parce que j'avais vraiment envie de dormir. Mais hier, je me suis dit, je ne vais pas proposer qu'à mes amis. J'ai proposé à tout mon master en disant, écoutez, j'ai besoin de travailler. Je préfère travailler en groupe. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds pour la BU? Ça ne demande rien, c'est juste un message. Au pire, personne ne te répond, ce n'est pas grave. Et il y avait une personne que je connais, mon master, qui, je sais qu'elle travaille très bien, que quand on dit on travaille, je savais que si j'étais avec elle, ça allait, quoi.
Ouais.
Je pense que oui, effectivement, ça dépend.
En tout cas, moi, travailler en tout cas avec quelqu'un, ça m'a aussi aidé. Surtout avec une personne, en fait, on prenait juste mes fiches et puis on se posait des questions avec ça. On se faisait tourner les fiches, chacun se faisait poser les questions. Et en fait, rien que le fait de réfléchir à comment formuler la question, ça nous fait réviser.
Mm.
Et ça nous a permis, par exemple, en histoire des faits économiques... Quand on est sorti de l'examen, on s'est dit waouh, on a vraiment bien fait de faire ça avant. Et on s'est rendu compte que ça avait super bien marché comme technique, on l'a refait pour les matières qui suivaient.
Voilà. Et même là, je vais être paradoxe, mais des fois, j'envoyais des messages, juste une question à un pote, et je voyais le paragraphe qu'il pouvait me le donner, et du coup, j'étais ok, je l'avais compris comme ça. Et tu peux t'échanger aussi des messages tout en étant dans le travail, en fait.
Ouais.
Peut-être c'est important tout ce que vous dites et je pense à tous les étudiants qui écoutent potentiellement là, qui s'autorisent pas forcément à demander de l'aide, qui des fois arrivent de d'autres villes et ne connaissent pas grand monde, pour qui c'est des fois pas si évident que ça de chercher de l'aide. Mais l'idée c'est qu'il y a pas de honte à demander de l'aide, à s'entraider et qu'il y a pas de honte aussi à s'organiser, à se faire des plannings et à s'autoriser à faire se reposer. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir en ce moment là parce qu'ils sont très très stressés et quand on discute avec eux de leur planning, c'est travailler soi-disant 24 heures sur 24 et au bout d'un moment tout le système s'épuise et les gens se sentent extrêmement stressés. En fait, on travaille pas 24 heures sur 24, on n'y arrivera jamais, comme vous l'avez toutes les deux très bien expliqué. Il y a des moments où on peut pas, on n'y arrive plus, puis c'est normal. Donc en fait, s'autoriser des choses, s'autoriser à justement marcher, voir des amis, faire des choses qui nous font du bien, qui nous remplissent. Et puis, demander de l'aide, trouver des solutions auprès de tuteurs, auprès de gens plus âgés. Enfin, et en fonction des filières, ce n'est pas toujours évident.
Non, ça c'est sûr.
Et pour ma filière, au début de l'année, ils ont organisé des parrainages. Donc, une association qui s'appelle AJEB, et l'autre c'était Club AES qui ont tous les deux organisé des parrainages. Donc moi je me suis retrouvée à la fin avec 2-3 parents à qui je peux sans problème envoyer un petit message sur Instagram ou Snapchat, tiens j'ai pas compris ça, tu peux m'expliquer. Ouais. Et ça aussi c'est rassurant de se dire qu'on a des L2, L3 qui sont là pour nous aider, ça les dérange pas du tout.
Je vais vous changer un petit peu de thème, mais il y a une chose qui me paraît super importante, et c'est qu'on s'inflige beaucoup de pression en fait. Ça nous empêche d'avancer, de faire ce qu'on doit faire. Et du coup, c'est comme un blocage.
La pression, elle peut venir de différents facteurs. Hein. C'est souvent un facteur interne. C'est ce que disait Léa. C'est-à-dire, si je passe mon temps à me comparer, par exemple, là, je vais faire monter de la pression. Si je me dis que je dois être parfait ou parfaite en toutes circonstances et que je vais faire monter de la pression. En gros, aucun être vivant n'a envie de souffrir. Si je me dis que je dois être parfaite et que j'y arrive pas, ça me fait souffrir. Je me sens nulle, je vais avoir des pensées qui sont négatives sur moi-même. Ok, ça va faire monter de la tristesse ou de la colère contre moi, de la frustration, des tas de choses comme ça. Pour éviter cette sensation, je vais me mettre sur mon téléphone, je vais regarder un truc, ça fait rigoler, oui. Ou bien je vais éviter carrément, je vais aller faire autre chose. Et puis bien sûr, une fois que j'aurai évité, je vais me dire non mais je suis vraiment nulle, je n'y arriverai pas. Et en plus, je le fais pas, donc je vais être en retard, donc j'augmente. Et vous voyez, on part dans une espèce de cercle infernal. Comment déconstruire ça? Déjà se dire que, et je suis désolée, mais la perfection n'existe pas. Peut-être que je peux faire déjà au mieux de ce que je peux et m'autoriser justement à faire des pauses, à faire autre chose, puisque de toute façon, ce ne sera pas parfait. Ok, mon truc, c'est de rendre un dossier parce qu'il faut que j'ai au moins une note, quoi. Donc ça, voilà, c'est plus important ça que de m'auto-juger négativement sur le fait que je n'y arriverai pas. Donc déjà, prendre ce recul, je crois que c'est ça, c'est prendre ce recul par rapport à cette pensée. Là, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à le faire. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à le faire? C'est que je me dis qu'il faut que ce soit nickel, parfait, et que je ne serai jamais à la hauteur. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est des pensées, une pression interne? Ok, peut-être que je peux me rendre compte que c'est mes schémas internes là, qui me parlent et qui font qu'il faut que ce soit super bien. Bah, ok, je vais essayer de faire au mieux que je peux. Ce qu'il me faut, c'est et relativiser. C'est-à-dire, au fond, il faut que j'ai 10 à cette matière pour valider mon diplôme. Même si je fais 8, des fois, je vais le compenser. Ce n'est pas très grave. Je ne vais pas perdre ma vie sur un examen ou sur un test. Je ne perds pas ma vie. Non, ce n'est pas grave. Et j'en ai fait des études. Donc on y arrive. C'est pas, voilà. Donc, il faut relativiser, pouvoir se poser, se dire, OK, c'est pas grave, je vais faire au mieux et je rends mon truc. Voilà, ça, c'est une petite technique. Mais je ne sais pas si j'ai répondu, là, pour le coup.
Oui, 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 tu as répondu parfaitement. On arrive à la fin de ce podcast. Vraiment, merci beaucoup, Patricia, de nous avoir rejoints et avoir répondu à toutes nos questions. Merci les filles, Eve et Léa. Et si vous voulez nous rejoindre pour un prochain épisode, abonnez-vous sur notre compte Instagram. Et là, vous trouvez toute l'information.
Écoute, merci Tatiana de m'avoir accompagnée une nouvelle fois pour un épisode. Et merci à tous ceux qui nous écoutent et nous suivent sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à Bien-être étudiant On Air sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast pour ne rater aucun épisode. On vous rappelle que les professionnels de santé de l'espace santé étudiant de PESAC sont toujours disponibles pour vous recevoir et vous éclairer sur n'importe quelle problématique. Quant à nous, on se retrouve très vite. À bientôt.